France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Ce matin, comment les applications de rencontres affectent notre santé mentale? Tinder, Grindr, Hinge, Bumble, OkCupid. Vous utilisez peut-être ces moyens de rencontrer quelqu'un pour un soir et parfois pour la vie, mais l'utilisation de ces applis peut déprimer, entamer l'estime de soi, par exemple quand on ne correspond pas à certains canons en vigueur, certains comportements discriminatoires peuvent laisser des traces psychiques. Alors est-il vraiment possible de trouver sur ces applis des relations saines qui préservent notre psychisme? Éléments de réponse avec nos invités. Et vous, racontez-nous ce que toutes ces applications font sur votre santé mentale. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez laisser un message ou une note vocale. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
Alors, Loïc, 27 ans, lui ça va pas le faire. Parce qu'on le voit, il a les jambes autour d'un pylône, un petit jean un peu trop moulant, et des chaussures de ville. Non, il doit être coincé du cul, je zappe. Hop. Non.
Début de calvitie.
Chemise ouverte avec les petits poils et le pendentif.
Ça fait un an que je suis sur Tinder. Je devais être un peu désespérée. Tu vois plein de têtes et tu zappes ou tu prends, tu zappes ou tu prends, tu prends, tu prends, tu zappes, tu zappes.
Ouais, c'est 25 ans non plus.
Non. Ah mais je me dis tout le temps, putain, je suis vraiment une connasse. J'ai l'impression d'être dans le jugement, que dans le physique, alors que pourtant dans la vie quotidienne, justement, je suis pas très matérialiste, mais non, avec Tinder, je suis une putain de connasse.
Julien, encore un Julien non plus, c'est nul. Alors lui vraiment il a une tête de con. Un peu joufflu, mais il est gentil.
Extrait de Tinder Surprise sur Arte Radio. Bonjour Judith Duportail.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, autrice. Vous aviez publié aux éditions de l'Observatoire Dating, Fatigue, Amour et Solitude dans les années 2020. C'est quoi le dating fatigue en bon français?
On ne la traduit pas, on le dit comme ça, la dating fatigue, mais c'est un peu une forme de mélancolie amoureuse ultra contemporaine, de le sentiment de solitude qui peut émerger dans l'illusion d'un ultra choix. Et ce qu'elle décrivait aussi un petit peu, cette femme-là qu'on vient d'entendre, se voir devenir un peu une autre personne, très superficielle, et puis savoir qu'on est jugé de la même manière chez les autres. C'est une nouvelle forme de vague à l'âme.
C'est assez violent, l'air de rien, ce qu'on vient d'entendre.
Bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. C'est bien sûr, en fait, ça a l'air très anodin, très un peu léger, rigolo. Mais en fait, non, de devoir décider si on choisit d'entrer en interaction ou pas avec une personne en quelques secondes, sur quelques photos, en fait, ça nous pousse à avoir des comportements au moins violents ou brutaux, ou en tout cas très, très superficiels. Et surtout, ça donne beaucoup d'importance à des éléments très clichés, on va dire les vêtements, où est-ce que la photo a été prise, de quel milieu social a à peu près à l'air d'être la personne. Ça fait qu'on se base en fait voilà sur des éléments très clichés.
Bonjour Thibault Lambert.
Bonjour.
Vous êtes journaliste parisien aujourd'hui en France, vous animez le très bon podcast d'actualité Code Source et vous publiez chez Jean-Claude Lattès ce que Grindr a fait de nous, amour et sexualité à l'ère des applications de rencontres. Grindr, en quelques mots, c'est la célèbre appli de rencontre destinée aux gays, bisexuels et queer, grosso modo.
Grosso modo, oui, c'est ça, destinée aux hommes queer. Il y a surtout en majorité écrasante des hommes gays sur cette plateforme. C'est l'une des plus vieilles applications de rencontre. Elle a été créée en 2009, avant Tinder. Et en fait, chez les homosexuels, chez les gays, elle est carrément, on peut parler d'hégémonie en fait, puisque c'est l'application incontournable pour faire des rencontres. Il y a 13,5 millions d'utilisateurs qui s'y connectent par mois, ce qui, en fait, à l'échelle de la communauté, est vraiment énorme.
Bonjour Olivia Benhamou.
Bonjour Anne.
Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute, dernier livre paru au Cherche Midi, petit guide d'entrée dans la vie sexuelle. Olivia Benhamou, depuis votre poste d'observation au service universitaire de médecine préventive à l'Université de Rouen, les applications de rencontres et les réseaux sociaux sont la première entrée vers la sexualité majorité de la génération Z que vous connaissez très bien, la génération née entre 1995 et 2010, la génération de Thibault Lambert.
C'est ça, la mienne.
Oui, effectivement. Enfin, les jeunes adultes racontent. Hier, j'étais avec une patiente de 27 ans qui m'expliquait que, à part son premier amour qu'elle a quand même rencontré dans le cadre d'études faites à l'étranger, depuis, donc elle avait 19 ans, elle n'a rencontré que des personnes via les applis de rencontre, en effet. Et je suis d'accord avec vous, il y a une sorte d'écho qui se fait entre les applications de rencontre, les réseaux sociaux, avec toujours ces reflets multiples, ces images qui alimentent un peu effectivement le discours qu'on entendait tout à l'heure dans Tinder Surprise, c'est-à-dire le visuel. C'est assez intéressant de voir comment les critères, parce que c'est quand même ça qui revient au devant de la scène, les critères de choix du partenaire potentiel trouvent leurs racines dans beaucoup de choses liées à l'image. Ça peut être effectivement la mode. J'ai un patient qui me disait, mais moi, si la personne ne s'habille pas d'une certaine manière, enfin, c'est complètement rédhibitoire.
Olivia Benhamou, ça vous a paru violent, ce qu'on a entendu au tout début de l'émission ?
C'était dit gentiment et ce qui était, la personne elle-même s'accusait et se rendait bien compte qu'il y avait un côté un peu cruel dans son discours. Mais je pense effectivement que ça révèle surtout, je pense, une grande détresse et une telle envie de rencontrer quelqu'un que finalement on va se garantir, on va essayer de se donner des garanties en étant le plus sélectif. Mais c'est un petit peu illusoire comme type de sélection, je pense.
Thibault Lambert, vous faites partie de cette génération Z. L'entrée dans la vie sexuelle, pour vous, c'est faite via l'appli Grindr.
Oui, tout à fait, avec cette particularité que moi, forcément, j'ai.
À 17 ans, c'est même un soulagement de découvrir cette application.
Exactement, c'est-à-dire que, parce qu'il y a cette particularité que moi, je savais que j'étais homosexuel et que donc, forcément, en milieu rural, parce que je viens de Vendée, dans un petit lycée de 600 élèves où vraiment personne n'est sorti du placard, on se demande bien comment on va faire des rencontres. Et donc, l'application Grindr, quand j'avais 17 ans, donc c'était vers 2012, elle a vraiment opéré comme en moi comme un sentiment de décloisonnement, c'est-à-dire qu'en fait le fait de voir là comme ça que dans ma commune il y avait aussi des gens qui étaient connectés sur cette appli, donc il y avait des homosexuels sur le territoire, ça m'a vraiment fait me sentir moins seul. Et donc en fait il y a un psychologue que j'interroge dans le livre qui me disait que justement il y a un effet de dépathologisation au départ. En fait on se construit en se disant, pour ceux qui le savent très tôt en fait, qui sont pas hétérosexuels, que c'est pas normal, qu'il y a un problème. Et l'appli, justement, Grindr, en tout cas, vient dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, apporter cet effet de réconfort.
Et pour le docteur en sociologie que vous citez dans votre livre, Tanguy Vandenabille, Grindr, je le cite, reste un lieu intéressant, voire réconfortant pour certains quand on ne sait pas trop où aller pour se découvrir.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y a quand même ce côté de, c'est une solution qui est pas achetée entièrement à la poubelle, puisque dans des milieux qui sont en dehors des grandes villes, par exemple, ou quand on a une certaine timidité, il y a par le biais de cette appli, le fait que par le écran interposé, finalement une espèce de première mise en contact, sans avoir trop à se mettre en danger, en fait, finalement, puisque on présente ce qu'on veut bien présenter de soi, on n'a pas à aller dans un bar gay par exemple, alors qu'on n'y connaît rien, on reste dans sa sphère privée. Avec son écran, on a la maîtrise de ce qui peut se passer, en fait.
Et c'est bien après que les désillusions vont arriver avec l'utilisation de cette appli Grindr. Et vous, Judith Duportail, quelle place ont eu toutes ces applications de rencontres dans votre vie affective et sexuelle ?
Moi, je suis de la génération juste au-dessus de Thibault, la Y. Donc, j'ai connu toute une partie de ma vie sans les applications de rencontre. Mais enfin, quand même, maintenant, Tinder, ça fait plus de 10 ans qu'elle est arrivée en France et qu'elle a pris une place vraiment prépondérante. Pour les jeunes femmes hétérosexuelles, il y a aussi, au départ, en tout cas pour celles que j'ai rencontrées et pour ma part, un effet d'euphorie quand on découvre les applications de rencontre, l'impression qu'on va pouvoir rencontrer tout un tas de personnes en dehors de ces cercles. Et après, arrive aussi une forme de désillusion très brutale qui est liée à plusieurs facteurs. Déjà qu'on vit encore dans une société sexiste. Et donc, pour une jeune femme, chercher des relations, même quand on l'assume sans lendemain, ou même avec peut-être un lendemain, mais en tout cas, assumer une forme de légèreté, c'est souvent s'en prendre plein la tronche. Parce que pour un grand nombre d'hommes, encore aujourd'hui, je le regrette, ça veut dire qu'ils ont le droit de ne pas vous respecter ou de vous considérer comme une travailleuse du sexe gratuite qu'on peut ghoster, hélas. Genre, et ça, c'est quand même une grosse claque. Et puis, il y a aussi...
Ghoster, ça veut dire quand vous disparaissez...
Oh, non, le ghosting, c'est connu.
Je suis pas sûr que ma mère sache.
Elle en a de la chance.
Ghoster, ça veut dire quand vous disparaissez sans laisser d'adresse et sans explication.
Sans explication, sans prendre la peine d'écrire un petit message, de mettre les formes ou même de faire un petit mensonge, hein, de dire, bah, en fait, j'ai trop de boulot, on pourra pas se revoir. Parfois, le mensonge, c'est une preuve d'égard envers l'autre. Voilà, il y a la désillusion, il y a l'illusion du choix. Parce qu'en fait, cette idée qu'on va pouvoir rencontrer plein de personnes, elle n'est pas tout à fait réelle. Parce qu'en fait, pour pouvoir accrocher, connecter avec une personne, souvent, il faut quand même avoir un bout de réalité partagée. Que ce soit un patron à critiquer, que ce soit une passion, que ce soit des études, que ce soit un métier, que ce soit, je sais pas, un immeuble. Enfin, en fait, rencontrer plein de parfaits inconnus et se retrouver face à eux à un café, ça ne veut pas dire qu'on va vraiment les rencontrer. Ça veut dire qu'on a le choix de vivre plein de moments gênants.
Thibault Lambert, vous écrivez dans votre livre que vous vous sentez piégé par cette appli. Parce qu'à de maintes reprises, vous l'avez désinstallé, puis réinstallé. Il ressemble à quoi ce piège ?
Bah en fait, oui, alors la désinstallation et la réinstallation, alors c'est très prégnant chez Grindr, mais à mon avis, c'est le cas de toutes les autres applis. Hein, je parle sous le contrôle de Judith. Et ce piège, en fait, il est que on a fait collectivement, enfin, en tout cas, c'est ma thèse dans le livre, on a fait collectivement que Grindr est devenu indispensable aux rencontres. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens dessus, et il y a aussi une promesse sur Grindr qui est qu'on peut se rencontrer très rapidement parce qu'il y a une géolocalisation et une distance qui est affichée au mètre près par rapport aux autres. Donc voilà, ça fait miroiter quand même une rencontre efficace qui finalement n'est pas si efficace que ça. C'est pour ça qu'on finit par la supprimer parce qu'on en a marre de scroller, de passer une heure dessus. Une heure, c'est le temps moyen d'utilisation de Grindr quand même, hein, ce qui est énorme dans une journée. Hein. Donc voilà. Et une fois qu'on l'a désinstallé, finalement, il n'y a pas d'alternative. Enfin, en fait, je veux dire... En tout cas, surtout chez les homosexuels, si on n'a pas l'entourage qu'il faut pour rencontrer d'une autre manière, de manière interpersonnelle, si on est trop timide pour aller dans les bars, il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc, on retourne dessus.
Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Je ne vous demande pas si vous êtes une adepte des applis de rencontre.
Je suis du siècle dernier, Ali, franchement.
Vous êtes rédactrice en chef à Femme Actuelle. Quel est le menu de vos questions toujours pertinentes ?
Comment réussir durablement sa dating détox et en quoi l'intelligence artificielle est-elle peut-être le meilleur allié des anti-applis ?
Il a connu les petites annonces du chasseur français Éric Libiot, rédacteur en chef à Écran Total dans la vraie vie. Quel est le menu de votre chronique Petite mythologie d'un objet ?
Eh bien écoutez, je me suis demandé si un dé pouvait aider à choisir, notamment d'animer une émission de radio.
Oh bon là là, ça promet dans une vingtaine de minutes. On continue à explorer l'impact des applis de rencontre sur notre santé mentale. Ce sera juste après avoir écouté Bébé Requin, une chanson de France Gall, sortie en 1967, 10h19 sur France Inter.
Viens, suis-moi, je connais une route d'émail. Je t'entraînerai. les eaux chaudes, je t'entraînerai. Et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur. Moi, joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour.
L'adolescence d'Éric Libio avec Bébé Requin de France Gall.
Ali Rébéi.
Super, il n'y a personne sur Grindr.
C'est sérieux?
Le mec le plus proche est à 30 km. Il est moche, il a une moustache.
Grand bien vous fasse.
Je vais me jeter dans les douves.
Sur France Inter.
Comment les applis de rencontre affectent notre santé mentale? C'est notre thème ce matin.
Mais moi, je les ai tous essayés. Ah, mais en 17 ans.
Tinder a perdu 6% de ses membres l'année dernière. C'est pas un hasard. C'est qu'il commence à y avoir une prise de conscience et un ras-le-bol.
Arnaud Poissonnier, l'entrepreneur parisien qui a eu l'idée de ces rendez-vous, anime les débats. Il y a la désillusion d'Anne-Sophie, 52 ans.
Mon problème, il vient du fait que les rencontres, bah oui, en fait, ils veulent tout de suite aller au lit, quoi, en fait. Je lui fais bien comprendre que j'ai passé une bonne soirée, que ça me ferait plaisir de le revoir, etc. Et derrière, il se passe plus rien. J'ai plus de nouvelles.
Delphine, une autre quinquagénaire.
Je ne crois plus du tout ce qui est écrit sur Internet. Voilà, ça nous abîme humainement.
Louisa Amara, animatrice depuis 4 ans d'un podcast sur le célibat assumé, intitulé Single Jungle, raconte cette anecdote.
Sur les applis, on m'a déjà dit, tu es charmante, mais d'ici le premier rendez-vous, il faudrait que tu perdes une taille ou deux. Qu'est-ce que tu fais sur cette appli ? Perd 20 kilos, il revient. C'était une fatigue vraiment mentale, parce que j'y mettais de l'énergie, du temps. J'ai fini par les consulter, hein. Ça me peinait vraiment.
Extrait d'un reportage diffusé sur France Info le 4 octobre 2024. Alors, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices nous disent qu'ils se sentent réduits à des objets jetables, consommables sur ces applis, et que cela affecte leur santé mentale. Et le témoin que l'on vient d'entendre nous dit « ça nous abîme humainement, Olivia Benhamou ». Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne.
Oui, tout à fait. Et bien hier, j'ai une patiente qui me parlait de drainage émotionnel. Elle disait que c'était épuisant émotionnellement de faire des rencontres et que cette succession d'investissements, parce que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, effectivement, on commence à projeter des choses, à fantasmer, à imaginer des choses jusqu'au premier rendez-vous. Et puis, le premier rendez-vous peut bien se passer ou mal se passer, mais dans tous les cas, il y a une forme d'investissement, qu'on le veuille ou non, minime en tout cas. Enfin, et donc, le fait d'être déçu et de recommencer, donc cette répétition est extrêmement douloureuse. Et par rapport à ce que vous disiez sur le sentiment d'être considéré comme des objets, il faut voir le logo de adopteunmec.com, c'est un personnage qui, dans un caddie en fait, qu'on met dans un caddie. Donc c'est clairement affiché, effectivement, Thibault Lambert, vous le rappelez aussi dans votre livre, enfin, que c'est comme un catalogue de garçons qu'on a dans sa poche arrière. Je crois que vous citez un roman de c'est Arthur Dreyfus,
voilà, le journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, voilà. On a une vitrine de garçons dans la poche.
Exactement, voilà, ça, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du commerce, et c'est un commerce aussi, puisque ces applications gagnent beaucoup d'argent sur le dos des adhérents.
Thibault Lambert, je rappelle que vous publiez ce que Grindr a fait de nous.
Oui, alors moi, pour moi, la désillusion, elle vient surtout sur les applis en général, et surtout sur Grindr, dont je parle dans mon livre, elle vient du fait que, voilà, on se construit à l'adolescence, c'est pas une période facile. On est en galère, on adopte des postures de suradaptation, d'hypervigilance, on essaie de se conformer, voilà, à la norme, à avoir le bon corps, etc. Et si on ajoute à ça l'inhibition du fait qu'on est homosexuel, bon bah voilà, c'est un facteur de souffrance supplémentaire. Et quand on arrive dans la vie de jeune adulte, on se dit, je vais enfin pouvoir être moi et vivre ma sexualité comme je l'entends. Et la grande désillusion, elle est que quand on arrive sur Grindr, enfin moi c'était mon cas, on se rend compte très vite que c'est pas vrai. En fait, on ne peut pas être soi, puisqu'on doit être conforme à un certain modèle de désirabilité et se présenter d'une certaine manière à pouvoir être sélectionné.
On est même poussé à se trahir, à se mentir à soi-même.
Oui, à se trahir à soi-même, en tout cas à ne pas forcément afficher les intentions, nos intentions réelles. C'est-à-dire que moi, je parle dans le livre du fait que, au bout d'un moment, je continuais à perpétuer les rencontres un peu plan cul, sans avoir vraiment conscience que ça m'allait plus, en fait, vraiment quoi. Mais malheureusement, on est tellement le nez dans l'application, elle est tellement chronophage, elle est tellement addictive, que c'est très compliqué. Puis en plus, il y a le désir qui rentre en compte. Donc, réfléchir pendant qu'on doit être en train de gérer son excitation sexuelle et son désir, c'est pas évident. Donc, en fait, il y a cette réflexion qui met du temps à émerger. Quand on souffre, quand on en a marre de Grindr, c'est que souvent, il est déjà bien trop tard et depuis longtemps.
Judith Duportail, surnommée la Française qui a défié Tinder par le Times.
Oui, moi je trouve ça très intéressant ce qu'on est en train de dire et j'aimerais qu'on prenne vraiment la mesure en fait, parce qu'on peut se dire oui c'est pas grave de se prendre un râteau après un rendez-vous, tout ça nous est tous arrivé, mais il faut se rendre compte en fait de la fréquence avec laquelle ça arrive quand on est sur les applications, et même sans aller jusqu'au râteau, rien que de lire les bios par exemple des autres utilisateurs. Moi j'ai échangé avec beaucoup de jeunes hommes où c'est écrit sur les bios des jeunes femmes, si tu fais moins d'1m80, dégage, et quand ils lisent ça 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois. En fait, notre estime de nous-mêmes, notre conscience de nous-mêmes, elle est loin d'être un monolithe. On est influencé par tout ça, qu'on le veuille ou non. Et quand ça arrive régulièrement, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, qu'on emprunte cet ascenseur émotionnel dont vous parliez, entre projection, fantasme, illusion, et puis après, ghosting, râteau ou désillusion, tout simplement, eh bien, ça nous abîme. Et ça, comme disait le témoin, ça nous abîme. Et c'est aussi pour cela qu'on est de plus en plus nombreuses. Et je dis bien nombreuses à dessein, à choisir le célibat, en fait, à renoncer, à refuser de faire partie de ce game. Parce que comme vous le disiez Thibaut, il n'y a pas d'alternative. C'est là où on est dans la merde. Et je suis vulgaire aussi à dessein. Parce que moi, j'ai arrêté les applications parce que ça allait avoir raison de ma lumière, de mon estime, de ma joie de vivre. Et sincèrement, parce qu'en plus, j'étais dans la position la plus précaire du marché, qui est une jeune femme, la trentaine, qui a envie d'avoir des enfants. Et ça, il n'y a pas pire position sur les applications de rencontre. On est le plancton. Et donc, on est obligé d'inventer autrement. Moi d'ailleurs j'ai fait une PMA, aujourd'hui j'ai deux enfants, je suis très heureuse, mais on est obligé de réinventer bien plus que les codes de la séduction, les codes de la vie, les codes de la famille. En fait, ce que peuvent nous voler les applications de rencontre, si on n'y prend pas garde, c'est vraiment immense. C'est la possibilité de faire foyer, c'est la possibilité d'avoir le bonheur d'être mère. C'est pas des sujets anecdotiques, ce sont des sujets très profonds.
Thibault Lambert, vous l'écrivez également, hein, « Je me suis tant abîmée », et vous citez une étude de l'ONG Time Well Spent, réalisée en 2018, 77% des usagers de l'appli Grindr se déclaraient malheureux. Je ne sais pas si ce chiffre a changé depuis 2018.
Je ne sais pas, parce qu'il y a très très peu d'études qui sont faites justement sur la satisfaction de Grindr. En tout cas, oui, c'est sûr que moi, je me suis abîmé parce que Grindr, il faut savoir qu'il y a un fort implicite sexuel. Donc, en fait, je pense qu'il y a, comme aussi, on ne cherche pas, a priori, l'homme ou la personne de sa vie, on s'embarrasse encore moins de politesse. C'est-à-dire que le langage est très, très cru. C'est « je cherche, voilà, pas de gros ». Enfin, pendant très longtemps, ça commence à se calmer un petit peu, mais pendant toutes les années 2010, des profils mettaient « voilà, pas de gros, pas de noir ».
Pas de vieux,
pas d'efféminés aussi. C'est un peu le règne Grindr quand même d'une certaine masculinité, quoi. C'est-à-dire que d'une masculinité qui est proche d'une masculinité hégémonique, qui témoigne d'une certaine virilité, d'une force. Et on s'abîme parce que, en fait, c'est très difficile d'appartenir à cette masculinité-là. Enfin, on ne peut que se sentir, pour la plupart d'entre nous, déclassé.
Et vous l'écrivez, vous dites que la question de l'emprise de Grindr sur la vie des gays est politique. Et pour vous et pour certains chercheurs, Grindr est un amplificateur des logiques masculines.
Oui, c'est-à-dire que en fait, avant Grindr, il y avait déjà dans la sexualité gay cette valorisation du corps, cette valorisation du corps blanc, du corps jeune, du corps musclé. Et ce qui se passe en fait sur Grindr, c'est que c'est un lieu de rapport de pouvoir. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le sociologue Anthony Fouet dans sa thèse, où en fait finalement, ceux qui ont, qui se rapprochent de la masculinité la plus valorisée, la plus désirable, sont en mesure d'imposer leurs conditions de rencontre. Ils disent, moi, je veux faire cette rencontre-là et ce sera pas autrement. Et si t'es pas content, je trouverai quelqu'un d'autre.
Et vous décrivez dans votre livre les galériens et les vainqueurs de Grindr, de ce marché amoureux, érotico-sentimental. Les vainqueurs, c'est qui ? C'est quoi ? C'est l'homme blanc, gay, privilégié, doté d'un bon capital économique et ou culturel, et puis dans les normes sexuellement convoitées. Hein. Je vous cite toujours Thibault Lambert, corps tonique, musclé, jeune, grande taille et doté d'un pénis avantageux. Là, ce sont les vainqueurs.
C'est ça, ce sont les vainqueurs. Et après, ce que je raconte dans le livre, c'est que les vainqueurs sont-ils vraiment des vainqueurs ? Puisque quand j'interviewe quelqu'un qui vraiment utilise Grindr pour du cul, qu'il est vraiment un peu dans ses caractéristiques de la masculinité virile, je me rends compte que finalement, il s'est rajeuni de 10 ans. Parce que finalement, sinon, il serait complètement déclassé.
Il est terrible, ce témoin-là, qui est enseignant et qui affiche 36 ans, mais qui en a fait 46, et il a un carnet où il note toutes ses conquêtes. Ce sont des critères qui sont assez terribles. Hein.
Il a un carnet où il note les 200 conquêtes qu'il a eues sur les 4 dernières années. Il leur attribue une note sur 100. Il y a un barème. Donc voilà, c'est découpé en 5 notes. Alors il note le corps, il note l'orthographe, il note l'humour et il note que le pénis aussi. Voilà, ça dit bien ce que ça dit. C'est-à-dire qu'il utilise Grindr comme un moyen d'être dans la performance. Il répertorie finalement ces rencontres, peut-être aussi, ça c'est ma théorie, pour pas forcément les oublier, pour garder une trace, mais en tout cas ça montre bien que voilà, on ne fait que s'évaluer en permanence sur Grindr et s'auto-évaluer et s'auto-exclure aussi beaucoup, parce que quand on voit sur les profils, je veux pas de petits, je veux pas d'efféminés, on va avoir tendance à se dire, ah bah je vais pas du tout aller approcher cette personne-là.
Olivia Benamou.
Je pense qu'on n'est vraiment pas tous égaux face aux applications de rencontres et à leur utilisation, et notamment dans la dimension narcissique. L'exemple que vous venez de citer, pour moi, c'est, je trouve ça assez parlant. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que cette personne collectionne les rencontres et que, quelque part, il s'évalue lui-même à travers les rencontres qu'il fait. Il se note lui-même, finalement, parce qu'à quoi ça sert c'est une sorte de tableau de chasse personnel, mais c'est comme si... en fonction des conquêtes qu'il va faire, et il s'attribue à lui-même une certaine valeur. Après, y a plein de cas de figure, et c'est compliqué de généraliser, bien parce sûr. Qu'il y a des personnes qui sont, quand vous parliez des personnes plus désirables, qui correspondent au code esthétique, au canon de beauté, etc. Moi, j'ai un patient qui me racontait que lui, il avait l'habitude de donner des rendez-vous à 3 ou 4 personnes différentes, parce qu'il était sûr qu'il y en aurait au moins 1 ou 2 qui se désisteraient à la dernière minute, et pour être sûr d'optimiser le temps qu'il avait à consacrer, parce que c'est aussi de l'extra-conjugal. Et donc, effectivement, de l'autre côté, on imagine les personnes à qui se sont engagées pour venir à un date, qui se préparent pour venir, etc., et qui, à la dernière minute, parce que forcément, il va y avoir des doublons, si je puis dire, vont pas comprendre, parce que la réponse va être le ghosting pour pouvoir se sortir de cette affaire. Donc, qui est gagnant, qui est perdant, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose de très défensif aussi dans la façon de s'organiser, parce que ça génère beaucoup d'angoisse. Et il faut rencontrer et il faut qu'il y ait du sexe à la fin, en tout cas.
Thibault Lambert.
Oui, pour revenir sur cette histoire d'évaluation et d'auto-évaluation, c'est pas sans effet sur la santé mentale, puisque moi je cite dans mon livre une étude de 2019 du Royaume-Uni, les adultes queer, ils sont 3 fois plus nombreux que les hétéros à déclarer des pensées suicidaires en raison de préoccupations liées à leur image corporelle, parce qu'ils s'évaluent avec les mêmes critères ils se regardent avec les mêmes critères qu'ils appliquent aux autres.
Et oui, Olivia Benamou, le rejet peut être brutal pour celles et ceux qui en sont victimes pour de diverses raisons, avec des conséquences plus ou moins lourde sur l'estime de soi.
Ah oui, tout à fait. Mais justement, ce même patient me racontait qu'il avait, été en contact via le chat de Grindr avec quelqu'un qui lui a dit que d'ici 1 heure, il comptait se jeter d'un pont. Et donc, il était lui-même extrêmement désarçonné et il a essayé de lui remonter le moral, me disait-il. Et ensuite, il m'a dit que sur les applis, il y avait possibilité de signaler une personne. Et donc, c'était pour comportement violent, enfin abusif, etc. Mais il n'y avait pas de case pour mal-être et pensée suicidaire.
Mais je vais me faire l'avocat du diable. On pourrait vous rétorquer que tous les goûts sont dans la nature et qu'un utilisateur, une utilisatrice a le droit de préférer un certain type de corps, une certaine tranche d'âge.
Oui, alors ça c'est vrai, mais
je me fais l'avocat du diable.
Oui, bien sûr, mais le fait que ce soit affiché aussi explicitement et en fait moi je veux bien si tous les goûts étaient réellement dans la nature. Or c'est souvent les mêmes goûts qui reviennent, quoi. C'est-à-dire que c'est voilà l'homme viril, l'homme blanc, l'homme musclé. On va pas me faire croire en fait que il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts, c'est pas vrai.
Judith Duportail.
Et vous disiez tout à l'heure, oui, avec Grindr ou avec Tinder, on a une vitrine on a des garçons en vitrine dans la poche, mais on se sait aussi soi-même en vitrine dans la poche des autres. Et donc, en termes d'estime de soi, de la création de l'image de soi, pour introjecter le male gaze, donc le regard male masculin gaze, stéréotypé, c'est comme ça qu'on décrit voilà, le regard masculin stéréotypé pour, sur les femmes. Donc, cette idée d'être une belle plante, grande, mince, avec la peau lisse, les cheveux longs, etc. On se sent en concurrence avec des dizaines et des centaines d'autres femmes qui sont comme nous, avec le même petit vernis à ongles, les mêmes chaussures, enfin on se sent aussi si insignifiant. Et tous les goûts sont dans la nature, peut-être, mais en tout cas, quand même, quand on rencontre quelqu'un en physique, en chair et en os, on a l'opportunité de dépasser cette première impression. Et souvent, on est parfois surpris par nos attirances. Et c'est ça aussi la beauté de la vie, la sexualité, le désir. On est parfois attiré par quelqu'un qu'on n'aurait pas swipé sur les applications. Et sur les applis, eh bien, on ne peut pas dépasser ses préjugés. Et c'est ça qui est terrible.
Olivia Benhamou.
C'est vrai que cette histoire de quoi finalement on tombe amoureux, si on doit parler d'amour, mais enfin, qu'est-ce qui nous attire finalement chez l'autre ? Roland Barthes le disait, enfin, finalement on est tous des fétichistes, c'est-à-dire qu'on va être sensible à une voix, à un grain de peau, à, je sais pas, au reflet de la lumière.
C'est le fameux je ne sais quoi et le presque rien de John Kelevitch. Voilà. En fait, et sur les applis de rencontre, ça n'existe pas. Exactement. Ce je ne sais quoi et presque rien.
C'est ça qui est tragique.
C'est ça, mais effectivement, pour revenir sur votre livre, Thibault Lambert, vous disiez aussi que quand les gays se retrouvent dans des bars, ils sortent de leur poche leur appli pour voir qui est connecté dans le bar. C'est-à-dire que il y a une espèce de mise en abîme qui fait que la rencontre dans la réalité n'est vraiment plus du tout possible. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Enfin, les arguments, c'est souvent, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais aborder quelqu'un? On pose souvent la question, les jeunes adultes se demandent comment faire pour aller à la rencontre des autres.
Ce que ça dit, ce phénomène de regarder Grindr dans un bar, enfin c'est le sexologue Michel Oyon qui me disait ça, c'est que en fait il y aurait, et je pense qu'il a un peu raison, une peur du rejet qui est grandissante au fil des générations. Et donc en fait le fait de s'aborder d'abord
et de l'incertitude
et le fait de s'aborder d'abord sur Grindr, de s'envoyer des tapes, donc des espèces de flammes pour dire un peu à l'autre tu m'intéresses, c'est un peu le jeu de regard mais version numérique, ça amène une forme de préconfirmation qu'on se plaît. Il y a vraiment une peur du rejet qui je pense grandit de plus en plus aujourd'hui.
Mais ça confirme bien l'idée que finalement tout le monde est angoissé par ces applis, et que c'est vraiment une tentative de maîtrise de l'aléa, et c'est pour ça que ça fonctionne en fait, et c'est qu'on est tous des angoissés derrière nos écrans, mais c'est une illusion, il va falloir dépasser un peu ces angoisses et aller vers les autres.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Alors, question de dinosaure. Olivia Benhamou, si on rentre un peu dans le fonctionnement de ces applis, on a quand même des algorithmes, il y a des sélections qui sont presque faites automatiquement, on va vous soumettre des profils qui en théorie peuvent correspondre à ce que vous cherchez, si tant est que vous le sachiez. Et puis il y a quelque chose qui arrive maintenant, et j'ai presque envie de vous faire sourire avec ça, évidemment, c'est l'intelligence artificielle qui va faire parler entre eux, avant même que vous parliez avec l'autre personne, si on ne m'a pas perdu en route, les chatbots, donc des assistants virtuels, vont se parler. Je vous ai trouvé un exemple formidable d'un chatbot qui a formulé la question suivante. Si vous possédiez un animal de compagnie et qu'il lançait accidentellement une bombe nucléaire, comment le ferait-il ? Non mais est-ce que ça vous donne pas envie de vous désinstaller durablement ce truc-là, en fait ? Vous imaginez, vous arrivez à un bar, alors vous posez cette question. On en est là quand même.
Ça me fait penser à ces applis où en fait maintenant on peut plus se dire bonjour directement. Il faut d'abord pré-remplir des questions et des réponses qu'on s'envoie.
Sérieux ?
Oui, je sais plus quelle appli fait ça. Je crois que c'est le cas de Bumble ou d'une autre appli dans le genre. Il y a le côté de genre, il faut des approches originales, mais ça montre bien qu'il y a une forme de capitalisme en fait de la rencontre, c'est-à-dire qu'il faut être performant dès le départ, il faut accrocher dès le départ, il faut savoir se vendre au mieux possible.
Mais aussi, alors que prendre un risque dans la réalité d'aller vers quelqu'un, je discutais avec une patiente qui me disait, mais vous faisiez comment à votre âge? Enfin, quand vous aviez mon âge, je lui disais, mais moi j'avais pas de mal à aller vers les garçons qui me plaisaient, mais je me suis pris énormément de râteaux, mais bon, je suis toujours là en fait.
Il y avait les discothèques à l'époque.
Mais c'est ça, mais alors il y en a toujours, mais
oui,
c'est compliqué.
Il y a beaucoup
de timidité, d'anxiété sociale. C'est ça aussi qui alimente toutes ces applis.
Mais ces questions farfelues, elles sont aussi la preuve de la... C'est difficile, en fait, d'avoir des interactions de nulle part avec des inconnus. Et donc, on cherche à créer des points d'accroche, mais en fait, on n'y arrive pas. On ne peut pas dépasser ce que vous disiez sur l'anxiété, la gênance de rencontrer une nouvelle personne, encore plus dans un cadre où on n'a rien à partager.
On pourrait, si c'était quelque chose de communément admis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, ça paraît complètement farfelu et saugrenu. Mais, enfin, je ne sais pas, je pense que justement, les générations d'avant ont à nous apprendre quelque chose là-dessus. Et moi, je trouve ça chouette que les jeunes s'autorisent à me dire, mais vous, madame, parce qu'avec mes cheveux blancs, forcément, ils se posent la question, vous faisiez comment ? Bah oui, on s'écrivait des lettres, on attendait, ça prenait du temps, voilà.
Allez, il est 10h41, l'heure de retrouver un autre dinosaure, Éric Liveau et sa petite mythologie d'un objet.
Ne dit-on pas des objets inanimés ?
Grand bien vous fasse.
Et la question s'est posée à mon esprit fulgurant.
Ali Rebéi.
Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?
Sur France Inter.
Un gentil dinosaure.
Eh oui, vous l'avez deviné, Ali, je suis vieux et je n'ai jamais utilisé d'application de rencontre pour faire des rencontres. J'ai laissé faire le hasard et je le remercie d'ailleurs. Alors moi j'aime bien le hasard, hein. C'est le genre de truc qui rend fataliste, mais contre lequel il faut aussi savoir se battre quand il s'agit de maîtriser les situations qui se présentent. Mais il faut bien reconnaître que le hasard, c'est du costaud, même quand il se transforme en petit grain de sable. Ou alors, il faut tout décider sur un coup de dé, comme le héros du roman L'Homme dé, Luc Reinhardt, un psychiatre qui décide d'utiliser un dé pour tous les choix qu'il va faire.
C'est génial.
Fini le poids de l'ego, du ça, du moi et du surmoi, le dé décide, ce qui peut être évidemment très reposant. Oui, Ali, un dé peut aider. C'est le genre de principe que vous pourriez utiliser, car je vous vois souvent peiner à organiser vos émissions. Quand vous cherchez la façon de construire votre émission, vous pourriez numéroter vos questions, puis vous lancer le dé pour savoir dans quel ordre les poser à vos invités. Alors, le résultat pourrait être surprenant, voire foutraque, ou alors totalement bordélique, mais vous n'aurez plus l'angoisse de vouloir tout maîtriser, je vous connais. C'est le bien-être assuré, fini les ulcères, les réveils nocturnes en sueur et l'hypertension. Vous serez peut-être viré de l'antenne, mais vous serez en bonne santé. Je vous rassure, Ali, pour ne pas être viré de France Inter, vous aurez des arguments à faire valoir. Ainsi construite, l'émission dégagerait une certaine poésie et vous pourrez toujours invoquer l'Oulipo, ce mouvement littéraire qui croise l'imaginaire et les contraintes. L'écrivain argentin et oulipien Eduardo Berti a ainsi réinventé le principe oulipien du S+7 en utilisant un dé. Alors le S+7, je l'explique, consiste à transformer un texte en changeant chaque substantif par le septième qui suit dans le dictionnaire. Mais en utilisant un dé, comme l'a fait Eduardo Berti, vous changez chaque substantif par le premier, le deuxième ou le sixième qui suit dans le dictionnaire en fonction de ce que donne le dé. Et comme exemple, Eduardo Berti a utilisé le poème « Chanson d'automne » de Verlaine, dont je vous rappelle les premiers vers. Tout le monde les connaît, bien évidemment. « Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone », on dirait presque le sujet de l'émission. Et voilà ce que ça donne une fois que le dé a sorti le 4, le 3, le 4, le 6 et le 3. « Chantier d'autopsie, les sanitaires longs des virus de l'autopsie blessent ma cohésion d'un laquais monotone », c'est peut-être aussi le thème de l'émission. Alors les surréalistes n'auraient pas renié ce type de poème, sauf qu'il est à mille lieues de l'écriture automatique dont ils se faisaient les chantres. Mais la direction d'Inter appréciera certainement vos références, Ali. Alors il y en a un autre qui a réfléchi à cette histoire de dé et de hasard, c'est Stéphane Mallarmé. Alors je vous l'apprends peut-être, mais Stéphane Mallarmé est né le 18 mars 1842, c'est donc son anniversaire aujourd'hui, il aurait eu 183 ans. C'est surtout un poète français dont le plus célèbre poème s'intitule « Jamais un coup de dé n'abolira le hasard ». Et là, je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question. Est-ce vraiment un hasard si l'anniversaire de Mallarmé tombe ce mardi, alors que j'ai cherché désespérément un objet pour cette chronique et qu'il m'a soufflé son dé? Je n'ai toujours pas la réponse.
Et je vous rassure, Éric Libiot, ni ulcère, ni réveil nocturne, ni sueur quand je prépare cette émission. En revanche, vous m'avez donné envie de lire L'Homme dé, hein, Luc Reinhardt. Je crois que c'est à l'Olivier.
Alors là, vous me posez
Voilà, L'Homme dé de Luc Reinhardt. Tous les épisodes de La Petite Mythologie d'un objet sont à retrouver sur l'appli Radio France. Dans un instant, on continue à s'intéresser à ces applis de rencontre qui impactent notre santé mentale. Élément de réponse juste après avoir écouté The Weeknd, Cry For Me. Interprétez Cry For Me.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Comment les applis de rencontre affectent notre santé mentale? C'est notre question ce matin. Réflexion très pertinente d'Agnès qui nous dit « Les comportements que vous mettez en lumière existaient avant les applis de rencontre. Ne jamais rappeler quelqu'un, juger sur l'apparence, rejeter un homme petit, ça se fait plus rapidement sur une appli. C'est ça qui a changé », nous dit Agnès de façon très juste, Olivia Benhamoua.
Oui, ben effectivement, on peut partager. Après, ce qui est plus compliqué avec les applis de rencontre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la fréquence et la répétition, et dans une même journée, on peut avoir un nombre d'interactions.
C'est ça qui est différent aujourd'hui.
Il y a une densité finalement émotionnelle qui est créée par la facilité d'utilisation de ces applis et la quasi-permanence en fait. On peut faire ça le jour, la nuit, au travail.
Olivia Benhamoua, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Un conseil pour ceux qui vivent mal le fait d'être rejetés, bloqués, ghostés sur ces applis de rencontre, qu'est-ce que vous leur conseillez pour se reconstruire une bonne estime de soi?
Je pense en effet qu'il faut pouvoir de temps en temps s'accorder des pauses si on ne souhaite pas définitivement, mais c'est ce que vous dites. Enfin, tous les utilisateurs installent, désinstallent. Enfin, il y a effectivement une fatigue un peu chronique, mais surtout peut-être essayer d'explorer un peu les attentes rencontre. Si on est capable d'envisager les applis de rencontre comme un terrain de jeu sans avoir aucune attente, sans qu'il y ait d'enjeu de vie ou de mort, et qu'on ne se dise pas que ce qu'on recherche est absolument vital et que c'est pour combler un manque, mais que c'est simplement pour faire une rencontre et peu importe ce qu'il en ressortira, je pense qu'on se rend moins vulnérable à une réponse agressive ou désagréable, voire un ghosting, comme on le disait tout à l'heure. Mais si, en effet, on y met tellement de soi-même, bien sûr qu'on se rend extrêmement vulnérable.
Thibault Lambert, je rappelle que vous publiez Ce que Grindr a fait de nous. Comment vous vous êtes reconstruit psychiquement après quelques avanies sur ces applis ?
Est-ce que je me suis reconstruit ? C'est la question.
C'est la question que vous pose.
Déjà, en faisant une pause, effectivement, de Grindr et... pour reprendre ce que disait Olivia, en prenant conscience, c'est tout le travail qu'avait fait Judith et ensuite moi avec ce livre, que les applications sont des entreprises qui, en fait, le nerf de la guerre, c'est de générer du profit et de nous donner des récompenses aléatoires. C'est un jeu. C'est un jeu dans lequel on ne gagne pas tout le temps. C'est conçu pour qu'on ne gagne pas tout le temps. Donc déjà, prendre conscience de ça... peut-être que ça nous aide aussi à prendre du recul. Et enfin, moi, donc j'ai désinstallé Grindr et je pense que la réponse, elle est aussi dans le tissu social, c'est-à-dire, voilà, l'amitié, essayer de tisser des relations qui ne sont pas forcément des relations purement sexuelles, purement aussi amoureuses, essayer de voir ce qui peut se dessiner entre les deux, c'est ça qui nous sauvera, c'est essayer de sortir de cette binarité plan cul ou homme ou femme de sa vie, quoi.
Judith Duportail, autrice de Dating Fatigue.
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le modèle économique de ces applications est basé sur la création de frustration, notamment pour les hommes hétérosexuels. L'idée, c'est de pas toujours montrer leur profil pour que parfois ils aient des matchs, parfois ils n'en aient pas, et qu'à force de ne pas en avoir, ils soient frustrés, donc ils achètent les bonus, les options, etc. Donc il ne faut pas oublier qu'en fait, ce sont aussi des outils qui appuient directement sur les boutons de la frustration, du sentiment du rejet, pour nous faire casquer derrière. Moi, pour se construire, je pense que la solution c'est la politique, en fait, de politiser ces enjeux et de découvrir le féminisme et de lire, je sais pas, Mona Chollet, de lire mes livres aussi, mais pas seulement, enfin de lire les livres des sœurs, pour se rendre compte qu'en fait ce qu'on pense être de notre fait, ce qu'on pense être notre faute, ce qu'on pense être notre faiblesse, eh bien c'est une réalité commune et partagée.
Mon frère Éric Liliot.
Non, je voulais rebondir sur ce que disait l'auditrice, enfin ce qu'écrivait l'auditrice. C'est vrai qu'avant, au siècle dernier, même le siècle avant, j'imagine, ça existait, les râteaux, on disait oui, les petits, les grandes, etc. Mais il y avait au moins la rencontre physique qui se faisait tout de suite. Et du coup, le premier sentiment pouvait changer par une voix, une discussion, un regard, des choses comme ça. Et quand je vous entends, moi, je suis un peu effrayé. Enfin, bon, ceci dit, ma vie sexuelle est finie depuis longtemps, mais je suis un peu effrayé. Parce que j'ai l'impression qu'il manque ça quand même. Il manque cette idée de. Alors, on regarde des photos, mais tout peut changer sur un regard, comme disait, je ne sais plus quelle écrivaine. Ne serait-ce que la rencontre, la poignée de main, la bise, le son de la voix, je ne sais pas.
Je ne sais quoi, Thibault Lambert.
Et sur les applis, ça ne joue pas, ça.
Mais moi, je pense qu'on dit le mot râteau depuis le début de cette émission. Le mot râteau est-il encore pertinent en 2025? Puisqu'il y a tellement de mots.
C'est beaucoup plus
le ghosting, l'orbiting, etc. En fait, si seulement.
Tous ces mots affreux.
Si seulement on se prenait un râteau. Enfin, moi, si seulement je m'étais pris des râteaux un peu plus souvent, peut-être que j'aurais su ce que ça fait. Mais non, en fait, je me prends finalement des j'envoie mes photos et puis j'ai plus de réponse, j'envoie le code le digicode de mon immeuble et puis finalement il y a rien qui se passe.
Oui, c'est un évitement permanent.
Voilà, c'est un évitement permanent, c'est ça qui fait mal.
Alors, la santé mentale via ces applis qui peut être affectée quand vous êtes victime d'un escroc de l'amour sur l'une de ces applications.
Un soir de mars 2023, je suis chez moi, j'ai un match qui apparaît. Alors, assez étrange parce que c'est pas quelqu'un que j'avais liké. Et donc, je vois le profil de Lesti apparaître.
J'ai commencé à discuter avec Lesti sur Tinder au mois de mai. Tout début mai, ou même fin avril, et on s'est rencontrés début mai.
Ce qui me plaît, c'est qu'il est très élégant, il a l'air de s'habiller plutôt bien, et il a l'air d'avoir pas mal de charisme.
Il s'est présenté comme un homme de 39 ans, célibataire, jamais marié, sans enfant.
Il a été marié et divorcé depuis quelques années. Il est papa de 3 enfants.
Il me dit qu'il a 2 belles voitures, qu'il a une maison dans le 95, qu'il a un appartement dans le 6e arrondissement de Paris. je comprends qu'il est bien au-dessus de mes moyens.
Extrait du podcast Lover-Voleur de Lysiane Larbany. Bonjour Lysiane Larbany. Vous êtes journaliste et vous collaborez à cette émission. C'est un podcast en 4 épisodes disponible sur Louis Média et sur l'appli Radio France. Vous aviez gagné un concours ?
Non, ça a été sélectionné par Erwan Gaucher de la direction des programmes de l'antenne.
Alors, ce podcast, c'est l'adaptation et le prolongement d'une enquête que vous aviez réalisée pour le journal Libération. Et là, vous y dénonciez donc les agissements de Lesti, un homme de 40 ans qui se sert de l'appli Tinder pour rencontrer des femmes avec un seul objectif, les arnaquer sentimentalement et financièrement. C'est un arnaqueur, cœur comme dans coup de cœur. Dans quel état mental sont toutes ces femmes que vous avez rencontrées ?
C'est assez variable. En tout cas, c'est sûr qu'elles sont toutes marquées et qu'elles n'oublieront certainement jamais leur expérience avec Lesti. Pas mal de colère, pas mal de tristesse. Il y a aussi des femmes très abattues qui ont vraiment été traumatisées, en fait, parce qu'en fait, il y a des conséquences en cascade, parfois des grossesses, des MST, enfin, beaucoup de choses assez très dures à entendre dans leurs histoires. Mais globalement, elles sont heurtées. Et surtout, ce qui est très général à toutes, c'est qu'elles se sentent sales. C'est vraiment quelque chose, elles se sentent salies dans leur estime d'elles-mêmes et aussi elles se sentent honteuses d'avoir été bernées par un homme qui avait totalement menti sur son identité, sa vie personnelle.
Et toutes ces femmes peuvent ressentir des syndromes de stress post-traumatique, de l'ultra-vigilance, une perte de l'estime de soi, de l'isolement, perte de poids et bien d'autres choses.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, comme c'est une rencontre pour le coup qui s'est traduite dans la vraie vie, où Lesti s'est vachement investi auprès de ses femmes, même en tant que beau-père, gendre idéal, etc. Elles sont très choquées parce qu'il y a vraiment eu une intrusion dans leur vie privée et donc elles se sentent, même si elles ont eu des relations consenties avec lui, parfois elles se sentent presque violées parce qu'il y a vraiment une transgression du consentement et elles se sentent bernées. Tout à l'heure, Judith disait un truc très intéressant. Vous disiez, je me sens sur la marchandise des applis, je ne suis pas en meilleure position. Et c'est vrai que ces arnaqueurs, dont fait partie Lesti, s'appuient aussi sur ça. Il avait dit à l'une de ses victimes, on peut faire croire n'importe quoi à une femme de plus de 30 ans qui n'a pas d'enfant et qui en veut. C'est cruel et c'est cynique. Portail.
Bah oui, c'est cruel, c'est cynique, mais ça dit quelque chose de cette réalité, de cet instant de la vie qui est particulier. Voilà, la trentaine, la recherche d'un partenaire pour fonder une famille et de oui, comment on est jeté en pâture en fait.
Le podcast Lover Voleur de Lysiane Larbany est à écouter en 4 épisodes sur l'appli Radio France et je vous le conseille très vivement. Tiens, pour terminer, que conseillez-vous pour ne pas se faire abîmer par ces applis, Thibault Lambert, au terme de votre enquête sur ce site Grindr, qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Moi, ce que je... déjà de lire mon livre. je pense que déjà, il faut essayer de prendre un peu du recul et réfléchir à ses propres usages, ce qu'on prend jamais le temps de faire, en fait, puisqu'on est tout le temps dans une recherche qui est urgente, finalement. Je pense que déjà, s'observer, c'est déjà un premier point pour essayer d'aller mieux et puis aussi diversifier en fait ses moyens de rencontre et ses interactions sociales en fait pour ne pas rendre l'appli indispensable.
Laisser le hasard et le regard faire et voilà.
Oui, voilà, en tout cas essayer d'avoir
dans la vraie vie. Olivia Benhamou.
Oui, je trouve que ce serait chouette de pouvoir encourager un mouvement global général de oser à vous parler dans la vraie vie, oser vous prendre des râteaux
sans avoir peur de perdre la face.
Oui, et puis enfin de voilà d'être spontané. D'être
Judith
sincère,
du Portail.
En fait.
L'amitié, comme tu disais, comme vous disiez Thibaut, je pense que la solution à bien nos problèmes, ça passe par investir bien davantage les amitiés.
Merci beaucoup Olivia Benhamou. Vous revenez d'ailleurs jeudi pour parler de l'amitié des sexualité. Voilà. Merci beaucoup Judith du Portail, Dating Fatigue. C'est chez l'Observatoire. Merci Thibaut Lambert. Ce que Grindr a fait de nous, c'est publié dans la collection Nouveaux Jours chez Jean-Claude Lattès.
Grand bien vous fasse. Podcast France Inter.